Une fois de plus, Seigneur, nous nous tenons devant toi, cette fois-ci, pour entendre ta voix, pour recevoir ta parole. Nous voici, ô Dieu, une fois de plus devant ta face, cette fois-ci, Seigneur, pour entendre ce qui vient de ta part. Ce matin, et à l'occasion, Seigneur, de ce dernier culte dominical de l'année 2021, nous voulons, ô Dieu, que tu nous rendes capables de recevoir la pensée que tu as préparée pour chacun de nous. Nous voulons manger ce repas avec appétit, car ta parole déclare, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, notre prière est que ton serviteur ne soit qu'un simple outil entre tes mains pour pouvoir distiller, pour pouvoir délivrer, pour pouvoir annoncer, pour pouvoir proclamer ta parole à ton peuple. Merci, Seigneur, de m'aider à me tenir devant toi. Merci de m'aider à demeurer en ta présence et à parler de ta part. Que tu puisses m'embraser de ton feu, afin que, Seigneur, tout ce qui sortira de ma bouche puisse l'être également et finir par embraser les cœurs de ton peuple. Parle-nous, Seigneur, arrose-nous de ta parole, embrase-nous du feu de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et gloire au Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, nous allons demeurer dans le thème de Noël. Comme vous le savez, hier c'était le 25, le monde entier du moins, les gens qui observent le calendrier grégorien ont célébré la venue du Christ ici-bas depuis le 24, depuis le 25. Et je voudrais que nous demeurions dans ce registre, que nous demeurions dans ce thème de Noël. Et aborder un aspect en rapport avec la mission du Christ, à savoir Jésus comme étant la lumière du monde. Il est venu pour briller dans ce monde plongé totalement, entièrement dans les ténèbres. Il est venu, lui l'étoile brillante du matin, il est venu pour éclairer, pour illuminer, eh bien, tous ceux qui se tournent vers lui et les libérer du joug satanique, du pouvoir des ténèbres. Donc notre thème de ce matin est « Jésus, la lumière du monde ». Nous allons lire deux passages. D'abord dans Luc chapitre 2, versets 21 à 32. Et enfin nous terminerons notre lecture dans Matthieu 4, versets 12 à 17. Commençons donc avec Luc chapitre 2. À partir du verset 21, nous lisons « Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, un premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles, ou deux jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort, sans avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Et enfin, dans Matthieu chapitre 4, verset 12 à verset 17, Matthieu 4, 12 à 17. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Esaïe, « Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, ou littéralement, « Repentez-vous, car le règne des cieux est proche, ou le règne des dieux, c'est pareil. » Matthieu étant un juif, il savait très bien, et encore aujourd'hui, que les juifs ont du respect pour le nom de Dieu. Voilà pourquoi il utilise cette tournure, au lieu de parler du royaume de Dieu, il va parler du royaume des cieux. Gloire à Dieu. Amen. Puis-je rappeler à chacun de nous que nous sommes le 25 décembre 2021 et par conséquent nous sommes donc au dernier dimanche de cette année qui bientôt appartiendra au passé puisque nous allons tourner définitivement la page de cette année. Nous sommes donc là pour un dernier culte dominical, pour une dernière célébration dominicale. Et la meilleure façon d'aborder un culte comme celui-ci, c'est de l'aborder avec reconnaissance, avec action de grâce, avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur, par rapport à tout ce que le Seigneur aura été pour nous tout au long de cette année, mais aussi par rapport à tout ce qu'il aura fait pour chacun de nous. Et à cette occasion donc, j'aimerais revenir sur l'événement singulier, l'événement unique qui a tout jamais, mes amis, a marqué l'histoire de l'humanité, qui a tout jamais a marqué la destinée des nations. Car depuis cet événement, le monde n'a plus jamais été le même, voyez-vous. Et cet événement glorieux, majestueux, qui a marqué les annales aussi bien de l'histoire humaine que de l'éternité, cet événement n'est autre que la venue de Jésus-Christ ici-bas. Nous sommes tellement habitués avec le nom du Seigneur, nous sommes tellement habitués à parler de lui, de sa venue sur cette terre, que nous ignorons, mes amis, comment sa venue est l'événement le plus extraordinaire qui soit. Le Créateur de toutes choses, celui qui tient dans sa main le monde entier, l'univers tout entier, cet univers, mes amis, qui est au-delà du raisonnable, cet univers qui donne du tournis aux scientifiques, cet univers qui est là, mes amis, au-delà de toute conception humaine, eh bien, lui tient cet univers dans sa main. Un jour, celui-là a décidé, par amour pour l'humanité, eh bien, de venir sur cette petite terre qui, à l'échelle galactique, n'est qu'un grain de poussière. Un grain de sable, voyez-vous. C'est important de nous rappeler ces choses-là, car pour beaucoup d'entre nous, Noël est une occasion de festoyer, c'est vrai. Il y a un côté festif par rapport à cet événement, mais nous ne devons jamais vider cet événement de sa substance. C'est l'événement le plus glorieux, le plus majestueux, le Créateur de toutes choses qui est venu marcher sur cette terre. Voyez-vous? Oui, nous voulons, et je veux que nous demeurions dans ce thème, dans le thème de Noël. Car vous le savez, je l'ai dit, et beaucoup d'entre vous y ont pris part. Le vendredi, nous avons eu notre réveillon de Noël, notre soirée de Noël, et Dieu nous a visités puissamment. Et hier, le 25, c'était le jour, justement, de Noël, et un peu partout à travers le monde, tous ceux qui se réclament du Christ et qui observent le calendrier grégorien, eh bien, se sont réjouis, ont mis du temps à part pour rendre grâce à Dieu de nous avoir donné, de nous avoir fait le cadeau le plus précieux, le plus extraordinaire, le plus grand qui soit, à savoir Jésus-Christ. Et c'est donc normal qu'aujourd'hui, nous puissions, mes amis, à l'occasion de cette célébration, dédier ces moments au thème de Noël, donc à la venue de Jésus-Christ. Oui, sa venue reste l'événement le plus glorieux, puis-je vous le rappeler, l'événement le plus extraordinaire, depuis l'entrée du péché dans le monde, depuis que l'homme et sa femme, Adam et Ève, ont péché, mes amis, eh bien, depuis, la communion avec le Créateur a été coupée. Et lui qui est la lumière, eh bien, s'étant, éloigné de Dieu, ou l'homme ayant appuyé sur l'interrupteur de la désobéissance, venait d'éteindre la lumière divine qui l'éclairait. Cette lumière dans laquelle il y a la vie, et depuis les ténèbres règnent. Voyez-vous? Et c'est pourquoi nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour sa venue sur cette terre. Cette terre en proie à des pestes, à des horribles ténèbres. Par Jésus-Christ, à travers lui, c'est Dieu lui-même, mes amis, qui s'est approché de l'homme. C'est Dieu lui-même qui s'est approché de l'homme fait à son image, de l'homme créé à sa ressemblance. Jésus n'est pas venu par hasard. Tout a été planifié là au ciel. Tout était prévu. Il n'y avait pas d'autre solution pour sauver l'humanité que Dieu lui-même vienne et visite l'humanité. Et il l'a fait dans la personne du Christ. Il est donc venu dans un but précis. Il n'est pas venu en villégiature. Il n'est pas venu donc en passer quelques vacances au soleil ici sur cette planète. Il n'est pas venu comme quelqu'un qui partirait à la campagne afin de chercher un peu de quiétude. Pas du tout, mes amis. Il est venu dans un but bien précis. Et comme nous l'avons lu, Jésus est venu avec une mission bien définie. Une mission bien claire. Alléluia. Et gloire à Dieu. Tant à dire, frères et sœurs, sur les raisons de la venue sur cette terre du Fils de Dieu, tant à dire sur la mission elle-même, qui est une mission reçue de la part du Père. Et dans le passage de Luc que nous avons lu, le Saint-Esprit nous révèle trois raisons majeures. Le Saint-Esprit nous révèle trois vérités concernant, mes amis, la mission du Christ en venant sur cette terre. Nous l'avons lu. Gloire au Seigneur. Trois missions, trois vérités qui nous révèlent, mes amis, la mission elle-même, le sens de cette mission, lorsque le Seigneur est entré dans ce qu'on appelle le continuum espace-temps, en venant sur cette terre. Et ces vérités, nous les trouvons dans la bouche de Siméon, nous l'avons lu. Un homme pieux, un homme juste, un homme fidèle dans l'attente du Messie. Comme tant de juifs de sa génération, il attendait la venue du Messie. Il caressait en lui cette espérance. Il a eu à prier certainement pour que le Seigneur accomplisse sa promesse, car lui, comme tant d'autres juifs, était conscient que la venue du Messie, eh bien, serait salut pour Israël. L'avenue du Messie serait délivrance, restauration pour le peuple de Dieu. Et non seulement c'était un homme pieux, un homme juste, un homme fidèle dans l'attente du Messie, mais la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit était sur lui, alléluia. Et puis un jour, cet homme, poussé par le Saint-Esprit, eh bien, vint au temple. Et c'était le jour où les parents du Seigneur Joseph et Marie devaient, en conformité avec la loi de Moïse, amener le Seigneur au temple afin d'accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi. Jésus n'est pas le seul à être né ce jour-là. Il y avait aussi d'autres enfants, mes amis, même si Hérode en avait tué beaucoup, voyez-vous. Donc ça veut dire qu'il y avait d'autres parents qui étaient venus aussi présenter leurs enfants, leurs premiers-nés. Mais parmi ces parents, parmi tout ce monde qu'il y avait là, cet homme a été conduit par le Saint-Esprit vers Jésus-Christ, alléluia. Mes amis, le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire vers un homme. Il est venu pour honorer un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Dans cette foule des religieux, là au temple, où il y avait des sacrificateurs, où il y avait toutes sortes de, comment, de chefs religieux, où il y avait des hommes venus de toute la terre d'Israël, eh bien, Siméon, poussé par le Saint-Esprit, a été conduit vers le Seigneur. Et le Seigneur qui lui avait parlé en songe, c'est ça ce qu'on a traduit par divinement averti, eh bien, lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir eu l'occasion de voir l'accomplissement de la promesse que le Seigneur avait faite à Israël, d'envoyer un jour le Messie. Cette promesse que nous trouvons déjà dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme ont péché, le Seigneur a dit, s'adressant à Satan, que celui qui descendrait de la femme est donc celui qui écraserait sa tête. Alléluia. Et tous les Hébreux ont vécu, mes amis, avec cette espérance qu'un jour le Messie viendrait délivrer non seulement le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais par-delà Israël, le Messie viendrait délivrer, libérer l'humanité tout entière. Et là, il prend l'enfant avec beaucoup de reconnaissance envers le Dieu d'Israël qui lui avait donné cette parole qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu son Christ. Là, il prend le Seigneur dans ses bras, il lève les yeux vers le ciel, il fait cette prière sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car, écoutez maintenant, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple d'Israël. » Oh, alléluia! Cet homme rempli du Saint-Esprit, cet homme poussé par le Saint-Esprit va donc proclamer, mes amis, trois révélations en rapport avec la mission de Jésus ici-bas, en rapport avec sa venue sur cette terre. Car mes yeux ont vu ton salut, préparé devant ou pour tous les peuples, pas pour un seul peuple, mais pour tous les peuples, ton salut, qui est aussi la lumière des nations. Ton salut, qui est aussi la gloire de ton peuple d'Israël. Oh, alléluia. Là, nous voyons, mes amis, les trois raisons majeures de la venue de Jésus-Christ ici-bas. Il est venu pour sauver l'humanité. Le salut se trouve dans une personne. Le salut est une personne. Ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas un rite religieux. Mais plutôt une personne, Jésus de Nazareth. Quand lui est en nous, nous sommes alors sauvés. Quand lui est en nous, nous sommes alors pardonnés. Nous sommes justifiés. Nous avons la vie éternelle. Nous avons été libérés du pouvoir du péché et du pouvoir des ténèbres. Mais ils ont vu ton salut. Salut pour tous les êtres humains. Un. Ensuite, lumière du monde, deux. Et enfin, gloire d'Israël, ton peuple. Il faut savoir que les patriarches, pour parler de l'histoire d'Israël, les patriarches d'Israël, les prophètes et tout cela, ont été des petites lampes qui ont distingué Israël dans ce monde, alors que tout le reste des nations se fourvoyait dans le polythéisme, c'est-à-dire dans la croyance de plusieurs dieux, alors que le monde entier, eh bien, était sur cette voie de l'idolâtrie, cette voie de la rébellion, eh bien, ce peuple a eu la grâce d'être visité et d'être quelque part une lampe, mais une lampe qui brûlait et qui attirait le regard des autres. Mais la lumière par excellence, eh bien, c'est lui le Christ. Oh, alléluia. En d'autres mots, les patriarches ont été des petites lampes qui préparaient l'avenue de la véritable lumière, celle qui existe avant la création de toute chose. Cette lumière qui donne la vie, cette lumière qui libère des ténèbres, cette lumière qui change le destin des nations, cette lumière est venue il y a 2000 ans, mes amis. Cette lumière n'est autre que Jésus. Nous n'avons pas le temps de parler de lui comme étant le salut pour tous les êtres humains, de lui comme étant la gloire d'Israël. Mais nous allons parler aujourd'hui et très rapidement de Jésus comme étant la lumière du monde. C'est donc Siméon, sous l'inspiration, comme je l'ai dit, du Saint-Esprit, qui proclame cette vérité. Voyez-vous, avant lui, Ésaïe en avait déjà parlé. Voyez-vous, avant lui, l'Ancien Testament avait déjà prophétisé que le Messie, le serviteur de l'Éternel, c'est aussi un des titres du Messie, serait donc la lumière pour éclairer les nations, pour délivrer l'humanité de l'emprise des ténèbres morales et spirituelles. Et là, ce jour-là, Siméon tenait dans ses bras la véritable lumière qui est venue dans ce monde, alléluia, afin que le monde puisse être délivré des ténèbres. Et plus tard, le Seigneur lui-même, ayant commencé son ministère, dira dans Jean 8, verset 12, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu. » La lumière de la vie, mes amis, c'est une personne qui est venue, qui lors de son incarnation est née à Bethléem dans une étable, quelque part en Israël. Jésus, la lumière qui brille dans les ténèbres d'ici-bas. Eh oui, mes amis, il est la véritable, la vraie lumière qui, en venant dans le monde, veut illuminer, veut éclairer, veut délivrer quiconque du pouvoir des ténèbres et de la mort spirituelle. Il est venu sur cette terre et il a foulé la terre d'Israël. Quelle grâce! Quelle grâce pour ce peuple! Quel privilège pour ce morceau de terre! Voyez-vous qui se trouve entre... À l'est, tu as le lac ou la mer de Galilée, donc avec le Jourdain, et puis la mer morte. Entre le Jourdain et ces deux mers, et le littoral méditerranéen, dans cette portion de terre, le Fils de Dieu est venu, et il a foulé cette terre. Mes amis, quel privilège! Vous comprenez pourquoi cette petite partie du monde a toujours été et restera l'épine dans le pied des nations. Tant que le Messie ne sera pas reconnu, tant qu'Israël ne se tournera pas vers le Messie, eh bien, Israël ne connaîtra jamais la paix comme il faut. Il faut qu'il se tourne vers le Messie. Je rends grâce à Dieu, c'est qu'il y a un mouvement de retour de Juifs vers le Messie. Et ça, c'est un des signes de la fin. Voyez-vous, il a foulé cette terre. Et sa présence dans cette région du monde a apporté la lumière là où il y avait les ténèbres. Et cette lumière a impacté plus d'une personne en Israël. Partout où il allait, il illuminait tous ceux qui s'approchaient de lui. Il éclairait tous ceux qui croyaient en lui, tous ceux qui décidaient de marcher à sa suite, mes amis. Oui, il est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et les diriger sur le chemin de la paix, comme Luc 1, verset 79 nous le dit. Et le chapitre de Matthieu, chapitre 4, 12 à 17, est l'illustration de cette vérité selon laquelle il est vraiment la lumière du monde. Alléluia. Lumière du monde promise. Voyez-vous, nous l'avons lu. Il est l'accomplissement de tant de prophéties qui ont été faites plusieurs siècles auparavant. Il nous est dit que lorsque Jésus, nous sommes dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12, lorsque Jésus apprend que Jean-Baptiste a été livré, la Bible nous dit, à la suite de cet événement, Jésus se retire dans la Galilée. Il quitte Nazareth et il vient demeurer donc à Capernaum, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, c'est donc la mer de Galilée, ou le lac de Génézareth, donc ça porte plusieurs noms, ou mer de Kinneret, voyez-vous. Donc, il vint s'accomplir, il vint s'installer là-bas. Et Matthieu ajoute tout ceci en accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe avait dit bien avant, terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer au-delà, au-delà du Jourdain, Galilée des païens, ou Galilée de Goïm, pour tous ceux qui aiment bien l'hébreu. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Le Saint-Esprit nous montre, mes amis, que le déplacement du Seigneur de quitter Nazareth pour aller demeurer à Capernaum n'a pas été un simple choix, mais que derrière ce choix, derrière cette décision, mes amis, il y avait donc l'accomplissement ou la main du Seigneur qui accomplissait la parole qu'il avait dite, qu'il avait adressée à Israël 8 siècles auparavant. En effet, 8 siècles auparavant, vous rendez compte, 800 ans, c'est beaucoup, hein? Nous, ça fait seulement 61 ans que nous avons été, nous nous sommes affranchis de la tutelle belge. Nous sommes devenus un État souverain. 61 ans. Voyez-vous, nous pensons que c'est beaucoup, mais 800 ans. Dieu a parlé 8 siècles auparavant, mes amis, concernant ce peuple. Et là, le prophète, dans une vision, le Seigneur lui ouvre un peu l'esprit. Il voit une contrée qui se situait aux confins de Nephtali et de Zabulon. C'était donc les tribus d'Israël, lors du partage de la terre promise. Et il voit dans ce contrée des gens qui marchaient dans les ténèbres. Des gens qui étaient assis dans l'ombre de la mort. Des gens, mes amis, qui étaient esclaves du pouvoir de ténèbres. Il voit cette vision terrible, mes amis. Il a dû certainement voir angoissé en voyant ces ténèbres épaisses, ces ténèbres terribles qui exerçaient un joug pesant sur tous ceux qui habitaient cette région. Et pendant qu'il regardait, mes amis, cette scène abominable, cette scène triste, angoissante, quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. À un moment donné, eh bien, il voit une lumière qui apparaît et qui éclaire ce gens qui était assis dans l'ombre de la mort, qui éclaire le gens qui était sous l'emprise, mes amis, de pouvoir de ténèbres. Ésaïe est stupéfait et la vision passe. Il ne pouvait pas s'imaginer quand est-ce que cette vision allait s'accomplir. Le temps a passé, les siècles ont passé, jusqu'à ce que celui qui devait venir est venu. Oh, alléluia! Et le voilà à Zabulon, aux confins de Zabulon et de Nephtali. Et c'est là que quelque chose va se passer sur le plan spirituel. Tout d'un coup, la lumière jaillit. La vision qu'Ésaïe avait eue, on peut lire ça dans Ésaïe 8, si on peut nous balancer le texte très rapidement. Verset 23, où le Seigneur proclame que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Eh oui, des angoisses. Regardez comment ce virus nous a encore plongé davantage dans ces ténèbres d'incertitude, ces ténèbres d'angoisse. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir, écoutez bien, donnera de la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, c'est-à-dire on part de l'est vers l'ouest. On part, mes amis, de Nazareth vers Capharnaüm. Et il ajoute, à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations, c'est ça Galilée, hein? Galile, en hébreu, c'est territoire. Et avec le temps, à Galile, c'est-à-dire le territoire est devenu le territoire des païens ou la Galilée des nations. Et désormais, on appelait cette région la Galilée. Donc, c'est là, territoire Galilée. Au territoire des nations, chapitre 9, verset 1er. Chapitre 9. Le peuple qui marche dans les ténèbres, voyez, ben oui, bon. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tout cela avec la venue du Seigneur dans cette région. Eh bien, ce qui nous est révélé à propos de Zabulon, des gens de Zabulon et de Nephtali, eh bien, est la réalité dans laquelle se trouve notre monde. Mes amis, Jésus est venu sur cette terre en tant que lumière pour libérer tous ceux qui sont assis et qui sont esclaves de l'ombre de la mort. Tous ceux qui sont assis dans les ténèbres, tous ceux sur qui les ténèbres exercent un joug terrible, pesant. Mes amis, tous ceux qui sont esclaves, qui sont asservis, qui sont sous la servitude du pouvoir des ténèbres, c'est pour eux, c'est pour ces gens-là que Jésus est venu sur cette terre. Alléluia. Nous devons comprendre, mes amis, qu'avec l'entrée du péché dans le monde, eh bien, le monde a été privé de la lumière divine. Le monde s'est coupé, je veux dire l'humanité. L'humanité s'est coupée de Dieu. Et comme Dieu seul est la lumière, eh bien, en se coupant de Dieu, l'humanité a été plongée dans les ténèbres. Et depuis, les ténèbres règnent sur cette terre. Mais grâce soit rendue à Dieu, et ceci est la bonne nouvelle, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui se tournent vers lui, eh bien, ils sont libérés des ténèbres. Ils sont libérés du pouvoir des ténèbres. Ils viennent dans la lumière. Ils deviennent les enfants de lumière, appelés à produire des œuvres de lumière. Alléluia. Le monde du diable et le monde du péché nous est révélé comme étant le monde des ténèbres. Et quand on est dans le noir, eh bien, on ne sait pas où on met le pied. On ne sait pas qui est à votre droite ou à votre gauche, n'est-ce pas? On ne voit rien. On est plongé complètement dans le noir. Et je vous dirais que par rapport à ça, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a aucune religion qui soit capable d'apporter un peu de lumière à l'humanité afin de lui permettre de sortir de cet état d'esclavage par rapport aux ténèbres. Un seul peut le faire, car lui est la lumière. La lumière est une personne. La lumière n'est pas une croyance. Au lieu de gaspiller de l'argent pour aller dans tel ou tel autre lieu de pèlerinage à la recherche de la vie et de la lumière, eh bien, tournez-vous vers lui, car le doigt de Dieu pointe dans une seule direction. Le doigt de Dieu pointait dans une seule direction. Et cette direction n'a rien à voir avec tout ce lieu de pèlerinage que nous trouvons ici-bas. Vous ne trouverez nulle part la vie éternelle dans un lieu de pèlerinage, dans un site ou sur un site religieux. Le doigt de Dieu pointé vers une personne, Jésus de Nazareth, celui la lumière du monde, celui qui est venu affranchir l'humanité. Nous devons croire en lui. En dehors de Jésus, on est sous la domination du pouvoir des ténèbres. En dehors de Jésus, mes amis, on est esclave de l'ombre de la mort. Oui, on peut avoir une croyance intellectuelle. Oui, on peut avoir une croyance religieuse. Cela ne suffit pas pour être libéré de cette emprise démoniaque. Voyez-vous, aujourd'hui l'ennemi, mes amis, essaie de distraire l'humanité. Et en particulier distraire beaucoup d'entre nous. Regardez autour de vous comment les gens courent après tel ou tel autre prophète. Comment les gens courent après tel ou tel autre religion. Comment les gens courent à la recherche d'un saint à qui confier leur destin. Et malheureusement, aucun saint ne peut vous prendre et vous amener au ciel. Aucune religion ne peut vous affranchir de la pesanteur du péché. Ne peut vous libérer de la pesanteur des ténèbres. Aucune croyance, aucun rite religieux, aucune philosophie. Un seul peut le faire. Un seul peut le faire. C'est celui qui a quitté son trône de gloire, qui est né à Bethléem, qui a pris la forme humaine et qui a marché en Israël, qui a foulé la terre d'Israël, qui a annoncé le royaume et le règne de Dieu. C'est celui-là dont le monde a besoin, mes amis. Et désormais, eh bien, quiconque croit en lui est libéré du pouvoir des ténèbres. Oui, la parole de Dieu est claire concernant, mes amis, l'état de notre monde. Notre monde est sous le pouvoir du malin. Le malin domine, le diable domine ce monde. 1 Jean 5, verset 19 le dit. Le monde entier est sous le pouvoir du malin, ou littéralement. Le monde entier gît. Le verbe gésir, c'est-à-dire être couché, voyez-vous, être couché, étendu sans mouvement. C'est ce qu'on trouve dans l'expression si gît. Oui, c'est le verbe gésir. Eh bien, la Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Oh, alléluia. De par notre position en Christ, nous ne sommes pas de Dieu parce que nous avons adhéré à une dénomination dites chrétiennes, pas du tout. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et regardez la suite. Et que le monde entier, pas une partie, hein, le monde entier est au pouvoir, ou littéralement, le monde entier gît, est couché sans mouvement dans le malin. Pourquoi sans mouvement? Parce que le diable domine. Il impose, voyez-vous, il écrase. Il est là pour détruire. Les gens sont liés. Les gens sont esclaves. Ils savent quoi faire. Ils tournent en rond, mes amis. Ils essayent de se libérer de ces chaînes, de ces liens, de ce joug, de cette emprise. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Aucune croyance ésotérique. Aucune croyance. Mes amis, philosophie ésotérique, occulte ou autre, ne peut affranchir l'homme du pouvoir des ténèbres. Alors vous qui cherchez la lumière dans toutes sortes de pratiques ésotériques, vous qui courez après telle ou telle autre confrérie mystique, surtout parmi les intellectuels, sachez qu'aucune philosophie mystique, aucune philosophie ésotérique, aucune pratique d'initiation ne peut vous libérer de l'emprise du pouvoir des ténèbres. La délivrance se trouve en celui qui est la lumière du monde. Abandonnez ces pratiques démoniaques, destructrices, qui vous attirent la malédiction non seulement sur vous, mais sur votre famille, mais aussi sur votre postérité. Tournez-vous vers la lumière du monde. C'est lui le salut pour tous les peuples. C'est lui la lumière des nations. C'est lui la gloire d'Israël. Eh oui. La parole, la révélation écrite est claire quant à la radioscopie spirituelle et morale de notre monde. Notre monde est sous l'emprise des forces du mal, des puissances malveillantes, diaboliques, méphistophéliques. Notre monde est captive. Et à cause de cela, notre monde va mal. Tout ce que vous voyez, eh bien, n'est pas le simple résultat des choix humains. On choisit de tuer, on choisit de commettre adultère ou immoralité, mais derrière tout cela, il y a les puissances des ténèbres. Oui, Satan exerce son emprise mortifère sur l'humanité, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu délivrer les hommes, délivrer les femmes du pouvoir des ténèbres. Alléluia. Dans Actes chapitre 26, verset 18, Jésus s'adresse à Paul à propos de la mission, pourquoi il s'était révélé à lui, non seulement pour le sauver, mais aussi pour lui confier une mission. Qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, si on peut commencer au verset 17. Verset 17, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont là? C'est pas possible. Je t'ai pris du milieu de ce peuple. Il s'adresse à Paul, c'est le Seigneur. Hein? De ce peuple des païens vers qui je t'envoie. Voilà la mission de l'apôtre Paul. Vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Voilà la solution pour être délivré du pouvoir de Satan. Voilà la solution pour être libéré de l'emprise de la mort spirituelle sur nous. Voyez-vous, c'est Jésus. Et c'est ainsi que Matthieu 4, 17 nous dit, comme pour conclure, pour nous montrer maintenant le chemin pour rencontrer la lumière, le processus. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Je vous ai dit, normalement, là, le royaume de Dieu est proche. C'est le verbe en particulier, le verbe qui est utilisé en grec. C'est le verbe approcher. S'approcher de quelqu'un et être proche peuvent dire la même chose en même temps, ne pas dire la même chose. Hein? Voilà. Je peux parler de quelqu'un qui est proche de l'autre au niveau de ses idées, etc. Ici, c'est un verbe de mouvement, un verbe dynamique. C'est-à-dire, la lumière est venue, le verbe fait chair est venu, la parole fait chair, qui est la lumière, est venue dans le monde pour apporter le royaume de Dieu, pour s'approcher des hommes. Alléluia. Et là, qu'est-ce qu'il leur dit? Repentez-vous. Il est là, la lumière du monde. On ne peut pas la rencontrer, expérimenter tous ses bienfaits, si on ne passe pas par la repentance. Et ce matin, si vous voulez rencontrer le Seigneur, si vous voulez que la lumière luise dans votre vie, si vous n'avez jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien aujourd'hui, il vous tend la main. Tout commence par la repentance. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Malgré vos convictions religieuses ou autres, mais vous êtes pécheur. Vous avez mené une vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, avec la volonté du Seigneur. Et pour cela, vous avez besoin de vous repentir. Repentez-vous, car le règne de Dieu s'est approché. Et le règne de Dieu se trouve dans une personne. Et cette personne, non seulement apporte le royaume de Dieu vers l'homme, mais en même temps, il amène les gens à expérimenter le règne de Dieu. En lui, nous avons le royaume et le règne. Pour entrer dans ce royaume, celui la porte. Celui le chemin. Alléluia. Et pour expérimenter le règne, il faut être en lui. Le règne de Dieu s'est approché. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons donner l'occasion à certains d'entre nous qui n'ont jamais rencontré la lumière du Christ, qui n'ont jamais expérimenté dans leur vie, de leur donner l'occasion de s'engager aujourd'hui. Je veux faire un appel, si vous êtes là et que vous n'avez jamais eu l'occasion de recevoir Jésus dans votre vie, afin d'être libéré du pouvoir des ténèbres, afin d'être libéré de l'ombre de la mort, mes amis, et de la malédiction, eh bien, je vous donne l'occasion aujourd'hui, ou le Seigneur vous donne l'occasion de s'engager avec lui. Si tel est votre cas, je vous demanderai de lever simplement votre main, alors que nous avons tous nos têtes baissées. Alléluia. Qui veut recevoir le Seigneur afin d'expérimenter la lumière du Christ dans sa vie? Oh, alléluia. N'hésitez pas. Le Seigneur est là. Il est venu sur cette terre pour nous éclairer. Il est venu sur cette terre pour nous libérer du pouvoir des ténèbres. Merci. Il y a deux mains qui s'élèvent par là. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez bien vos mains. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi dans le fond. Merci. Il y a une main qui s'élève. Peut-être sous le chapiteau, sous le hangar ou sur le parking. Eh bien, gardez bien vos mains levées. Merci. Merci pour les mains qui s'élèvent. Le Seigneur est là. Il est là. Il se tient à la porte de vos cœurs et il frappe. Et il attend que vous lui ouvriez la porte de votre cœur et lui demandiez d'entrer. Et croyez-moi, il entrera, car telle est sa volonté. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Merci encore une autre main là-bas, en dessous, là, au rez-de-chaussée. Que Dieu soit béni. Merci. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Il veut vous conduire vers le Seigneur, comme il avait conduit Siméon. Il avait amené vers le Seigneur, et Siméon a eu la grâce de toucher le Seigneur, et ce matin... Eh bien, le Seigneur voudrait vous toucher. Oh, alléluia. Je vais prier pour vous. Je vais donc vous demander de faire cette prière après moi. C'est simplement une manière de vous aider à recevoir Jésus. Sachez que le Seigneur est là. C'est par la foi que vous pouvez le recevoir et que vous allez le recevoir. Alors, répétez cette prière par la foi en sachant que ce que vous dites, vous adressez cette prière au Seigneur qui est là devant vous. Il n'est pas loin, il n'est pas des années-lumière de vous, il n'est pas sur Mars ou je ne sais quelle planète, pas du tout. Il est là devant vous. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous et vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour le message de ta parole. Aujourd'hui, j'apprends que tu es venu sur cette terre pour nous libérer du pouvoir des ténèbres. Pour nous libérer de l'ombre de la mort spirituelle, pour nous libérer de la malédiction, pour nous libérer du pouvoir de Satan. Avant de te demander de venir dans ma vie, Seigneur, je voudrais d'abord te remercier d'être venu sur cette terre pour moi, mais aussi d'être là devant moi. Seigneur, tu connais ma vie. Je suis pécheur. Voilà ce que j'ai fait. Voilà les péchés qui ont marqué ma vie. Et ce matin, je te demande pardon pour ma vie de rébellion vis-à-vis de toi, pour ma vie immorale, pour ma vie de voleur, de méchants. Pardonne-moi, Seigneur, car tu es mort pour moi à la croix. Et à la croix, tu as pris tous mes péchés. Merci pour le pardon que tu m'accordes maintenant. et que je reçois par la foi. Maintenant, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur et je te prie d'entrer dans ma vie. Je te prie d'entrer en moi. Je te reçois comme sauveur, comme la lumière qui va désormais m'éclairer dans ma vie de tous les jours. Je te reçois comme Seigneur. Seigneur, merci. Prends la direction de ma vie. Je ne veux plus vivre seul, mais que tu sois celui qui me guide, celui qui m'accompagne durant mon voyage ici-bas. Merci, Maître. Tu es dans ma vie. Tu es maintenant en moi. Je te loue, Jésus. Je ne suis plus seul. Tu viens de jeter mes péchés loin de moi. Tu viens de me laver et tu es en train de me laver dans le sang que tu as versé à la croix. Désormais, la malédiction n'a plus d'emprise sur moi. Les ténèbres n'ont plus d'emprise sur moi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, pendant que nous avons nos têtes baissées, je vais demander à tous ceux qui viennent de recevoir le Seigneur de se mettre debout et je vais prier pour eux. Ne regardez pas autour de vous. Et quant aux autres, gardons nos têtes baissées. Merci. Merci pour ceux qui se lèvent. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Merci. Merci, Seigneur. Nous allons donc prier pour toutes ces personnes. Je demande au service d'accueil après de voir où se trouvent nos bien-aimés ici, puisqu'ils auront besoin de suivi, etc. Je vais prier pour vous. Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour la grâce que tu viens d'accorder à toutes ces personnes qui se sont mises debout. La grâce de te recevoir comme Sauveur et Seigneur. La grâce de se repentir devant toi, de croire en toi, de se reposer désormais sur toi et sur l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour eux. Oh, merci Jésus, car désormais tu es dans leur vie. Désormais, Seigneur, ils ne sont plus sous le pouvoir de Satan. Désormais, ils ne sont plus esclaves des ténèbres. Merci pour ta lumière qui les éclaire. Voilà pourquoi je brise toute emprise démoniaque sur leur vie au nom de Jésus. Que ta lumière les éclaire, que ta lumière les libère de tout ce qui est du monde des ténèbres. Que ta lumière brise, Seigneur, l'ombre des ténèbres sur leur vie, l'ombre de la malédiction sur leur vie, que désormais ils soient à toi jusqu'à ton retour. Merci Seigneur, je te les abandonne. Et te prie, Seigneur, de les bénir. Ils sont là à travers toute la salle. Seigneur, ils sont là debout devant toi. Oh Dieu, merci, car à partir d'aujourd'hui, leur nom vient d'être inscrit, Seigneur, dans ton livre de vie. Nous les accueillons dans la famille de Dieu. Nous les accueillons parmi nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. En tout cas, nous vous accueillons une fois de plus dans la grande famille de Dieu. Un jour, j'ai fait cette prière que vous venez de faire. Janvier 85, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus été le même. Je l'ai faite, cette prière. Beaucoup ici l'ont faite. Et aujourd'hui, vous venez de faire la même prière. Eh bien, le Seigneur qui est fidèle, sachez qu'il est entré en vous. Même si vous n'avez rien senti, quelque chose de particulier. Nous marchons par la foi et non pas par les émotions. Oui, il peut arriver que nous sentions quelque chose. Oui, il peut arriver. Mais lorsque nous ne sentons rien, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Alors, nous vous demanderons, vous qui vous êtes, qui venez d'accepter le Seigneur, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. À la fin de la réunion, si vous pouvez vous retirer, où c'est? Oui, vous pouvez aller juste derrière. Donc, n'attendez pas que tout le monde sorte. Dès qu'on aura terminé, eh bien, vous pouvez sortir par ici ou par là. Il y a la paillote là. Vous trouverez des gens qui vont prendre, soin de vous. Maintenant, si vous êtes pressé, je vous demanderai de revenir le vendredi. Alléluia. Ou alors de revenir le dimanche prochain. Nous voulons vous aider à mieux connaître ce Jésus pour devenir plus tard de bénédiction pour les autres. Que vous alliez aussi à votre tour répandre cette bonne nouvelle. Acclamons le nom du Seigneur. Nous prions pour les offrandes. Seigneur, merci de poser ta main et de bénir, ô Dieu, ce service destiné à la collecte, ô Seigneur, des offrandes, des dîmes et autres libéralités. Pose ta main et bénis, Seigneur, tous ces cœurs qui, dimanche après dimanche, te manifestent leur fidélité et leur amour en donnant de leur argent afin que ton œuvre prospère, Seigneur, ici à la borne, mais aussi à travers la borne. Merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur.